Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Yann.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Nous parlons de sujets touchant le quotidien et cherchons à y apporter la pensée de Dieu.
Aujourd'hui, Yann et Robert reprennent leur discussion sur la vie d'Abraham. Ils vont notamment parler de l'honnêteté et du mensonge. Ensuite, Jean-Yves partagera une méditation biblique sur le thème de la nouvelle création.
La personne d'Abraham est très honorée par le juif, le chrétien et le musulman. Et pourtant, lorsqu'on lit dans la Bible le récit de sa vie, l'on découvre qu'Abraham, tout comme nous, avait des défauts et qu'il commettait des fautes. Abraham parfois maintenait avec peine son intégrité personnelle. Vous avez tous connu des situations où il est tellement facile de mentir et de tromper afin de se protéger ou d'obtenir un gain personnel. L'honnêteté est parfois un chemin difficile à prendre. En tout cas, telle est l'expérience d'Abraham. J'ai encore Robert avec moi pour en discuter. Bonjour.
Bonjour.
Robert, Abraham a rencontré des situations où son intégrité fut mise à l'épreuve. Pouvez-vous nous dire comment?
Oui. Il y a deux récits dans le livre de la Genèse qui se ressemblent beaucoup. Le premier parle d'une famine qui sévissait en Canaan, là où l'Éternel avait conduit Abraham. Il a donc décidé de conduire sa famille en Égypte, où il espérait trouver du secours. Et alors qu'il s'apprêtait à franchir la frontière, il dit à sa femme Saraï, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront « C'est sa femme !» Et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi. »
Donc Abraham était prêt à mentir parce qu'il avait peur des conséquences de l'honnêteté. Quelle est la suite de ce récit?
Abraham était non seulement prêt à mentir, mais aussi prêt à livrer sa femme entre les mains d'un autre homme. La suite du récit nous montre que Pharaon, roi des Égyptiens, prit alors Saraï comme concubine, convaincu qu'elle était la sœur d'Abraham et non sa femme. Abraham a profité de cette situation, car le Pharaon lui a donné beaucoup de bétail en échange de Saraï.
Et que s'est-il passé après?
C'est là que l'Éternel intervient en envoyant une plaie sur les Égyptiens, ce qui permit à Pharaon de prendre conscience que quelque chose n'allait pas. Il s'est alors rendu compte qu'Abraham avait menti au sujet de Saraï. Il a demandé à Abraham de reprendre sa femme et les a renvoyés tous deux hors d'Égypte.
Quelle histoire étonnante! Abraham, après avoir menti, se tient bien d'affaire.
Il est vrai que cette histoire présente plusieurs aspects étonnants. Prenons-les un par un. Premièrement, nous voyons qu'Abraham a manqué de foi dans cette situation.
Et pourquoi dites-vous cela?
Je pense que si Abraham avait eu confiance en Dieu, il serait resté intègre. Mais Abraham a menti parce que sa foi s'était affaiblie. Permettez-moi d'expliquer pourquoi. D'abord, il est probable que son départ même de Canaan montrait son manque de foi. Canaan était le pays où l'Éternel l'avait conduit, le pays de la promesse. C'est vrai qu'il y avait une famine, mais Dieu aurait pu pourvoir aux besoins de cette famille, même s'ils étaient restés dans le pays. Admettons toutefois que Dieu les conduit à émigrer en Égypte. Abraham aurait dû avoir confiance en sachant que l'Éternel le protégeait là où il le conduisait. Abraham a menti parce qu'il redoutait un scénario qu'il avait imaginé. Dans cette situation, sa crainte a été plus forte que sa foi. Il a essayé, très maladroitement, de prendre ses propres précautions au lieu de confier la situation entre les mains de l'Éternel.
Vous suggérez alors que dans certaines circonstances, la malhonnêteté ou le mensonge a comme racine un manque de confiance en Dieu.
Oui, parfois c'est bien le cas. Bien sûr, on peut mentir pour des raisons beaucoup plus sournoises, pour calomnier un adversaire, pour tromper afin d'obtenir un gain malhonnête. Et la Bible dénonce fermement ces choses. Dans le cas d'Abraham, il craignait de rencontrer des ennuis. Et au lieu de faire confiance à Dieu pour se protéger, il a menti afin de les éviter.
Vous voulez, je pense, évoquer d'autres éléments surprenants dans cette histoire?
Oui. Le texte de Genèse dit « L'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. »
Oui, c'est quand même étrange que Dieu punisse Pharaon, alors qu'il était de bonne foi en prenant Sarai, puisqu'il ignorait la supercherie d'Abraham.
Je ne pense pas qu'il faille voir ces plaies comme une punition, mais plutôt les considérer comme une intervention de Dieu pour sauver la situation.
Pouvez-vous expliquer pourquoi ?
Vous voyez, Dieu avait fait des promesses à Abraham. Entre autres, sa femme et lui devaient engendrer une descendance. Évidemment, si la situation dans laquelle Abraham s'était mis avait duré, les promesses de Dieu n'auraient pas pu s'accomplir, car Abraham aurait perdu sa femme. Quel gâchis ! Mais retenez ceci, aucune puissance, terrestre ou céleste, ne peut empêcher l'accomplissement des desseins de Dieu. Loin de voir les plaies comme une malédiction dans cette situation précise, elles représentent une grâce accordée par un Dieu sauveur. Dieu a sauvé Pharaon du péché de l'adultère et Abraham de l'impasse dans laquelle il s'était mis. Mais surtout, Dieu a veillé sur l'accomplissement de ses propres promesses et desseins. Il y a toutefois un troisième aspect surprenant dans cette histoire.
Lequel ?
Lorsque Pharaon eut pris conscience des véritables faits, il a renvoyé Abraham de son territoire avec ses servantes, ses serviteurs, tous ses troupeaux, ses chameaux et tous les biens que Pharaon lui avait donnés.
Autrement dit, Abraham quitte l'Égypte enrichi. Et j'ose le demander, ne vaut-il pas mieux mentir de temps en temps si l'on doit sortir gagnant ?
L'on serait effectivement tenté d'arriver à cette conclusion. Mais il ne faut pas retenir la leçon que la malhonnêteté paye. Abraham a quand même eu des ennuis avec le Pharaon. Il a été banni du pays. C'est vrai que ça aurait pu être pire. Pharaon a fait preuve de bonté et derrière, nous voyons un Dieu qui, dans sa miséricorde, limite les dégâts que la faute d'Abraham aurait pu causer. Toutefois, nous verrons une prochaine fois que Dieu ne limite pas toujours les conséquences de nos fautes. Il ne faut pas avoir une attitude présomptueuse ou cavalière envers le péché, que ce soit le mensonge ou autre. Il nous est même dit de haïr le mal.
Quelle leçon peut-on tirer alors de cet incident ?
La foi d'Abraham a chancelé, ce qui l'a poussé vers la faute. Je pense que Dieu a voulu prouver à Abraham qu'il était digne de confiance, qu'Abraham n'avait pas à s'inquiéter quand les difficultés surgissaient dans sa vie. Par sa faute, Abraham s'est mis dans une situation critique. Dieu n'a pas approuvé sa conduite, mais a montré qu'il était tout puissant pour gérer les événements et pour veiller sur le bien-être d'Abraham, quelles que soient les circonstances. Dieu semblait dire à Abraham quelque chose comme « La prochaine fois que tu te trouveras devant une difficulté, garde-toi de péché et fais-moi confiance. »
Et pour nous aujourd'hui, vous diriez la même chose ?
Oui. Je sais que beaucoup peuvent se trouver dans des conditions de vie extrêmement difficiles, confrontés à la pauvreté, la maladie ou l'insécurité. Je sais que la tentation existe d'avoir recours au mensonge afin de s'en sortir. Cet incident nous rappelle que le mensonge est une voie dangereuse qui risque de compliquer la vie et d'apporter des ennuis encore plus graves. Mais par-dessus tout, cet incident nous rappelle que nous pouvons faire confiance en Dieu et attendre son secours. Si nous avons foi en lui, nous aurons l'assurance qu'il veille sur nous. Il peut gérer nos circonstances pour notre bien et assurer nos besoins essentiels.
Le mensonge et la malhonnêteté sont très courants dans nos sociétés et entraînent, entre autres, un manque de confiance, que ce soit entre les clients et le commerçant, entre les collègues au travail, les personnes au sein d'une même famille. Beaucoup pensent tirer profit de leurs mensonges, mais ils finiront par être perdants.
Car il ne faut pas se faire d'illusions. Nous pouvons parfois cacher la vérité aux autres, mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. Dieu voit tout et nous sommes tous responsables de nos actes devant lui. Toutefois, au lieu de nous condamner d'emblée, Dieu désire prendre nos vies, avec tout ce qu'elles comportent de faux et de mensonger, pour en faire quelque chose de beau et de vrai. Dieu veut faire de nous de nouvelles créations, et Jean-Yves en dira plus une fois qu'Hélène aura lu un verset de la Bible. Trouvez dans 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 17.
Alors, si quelqu'un est uni au Christ, il est créé de nouveau. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là.
Parfois, sur le bas-côté des routes, l'on peut voir des voitures accidentées, abandonnées par leurs propriétaires ou des voleurs. Si elles restent là, elles seront pillées pour leurs pièces détachées, rouillées par les intempéries ou incendiées par des délinquants. Et ces voitures deviennent de véritables carcasses. Serait-il possible de reconstituer une belle voiture en état de marche à partir de ces restes? Possible, mais cela en vaudrait-il la peine? Un tel projet impliquerait un effort et des dépenses énormes, et il serait sans doute plus facile et moins cher d'acheter une voiture neuve. Toutefois, la personne qui réaliserait un tel projet pourrait dire de sa voiture qu'elle est une nouvelle création. Nous pouvons comparer les hommes et les femmes à ces voitures accidentées, car le mal et le malheur, qui sévissent dans le monde et qui sont la conséquence de nos propres cœurs, ont réduit l'être humain à une condition bien triste. Tout comme une voiture abandonnée ne peut plus fonctionner selon les souhaits du constructeur, les hommes et les femmes sont incapables de vivre selon les desseins de Dieu, leur Créateur. Notre état est tel que nous avons besoin d'être créés de nouveau. Mais cela serait-il possible et en vaudrait-il la peine? Nous pouvons répondre oui à ces deux questions. La Bible affirme qu'avec Dieu tout est possible. Il est celui qui a créé l'univers et il contrôle tout par sa puissance inimaginable. Il peut tout et il a le pouvoir de transformer le gâchis présent dans nos vies pour en faire quelque chose de beau. Mais ce Dieu tout-puissant voudrait-il bien s'occuper de nous, nous qui l'avons si profondément offensé par nos fautes? Malgré tout le mal qui subsiste dans nos cœurs, Dieu nous regarde avec compassion et par amour, il a conçu un projet pour nous permettre d'être créés de nouveau. Tout à l'heure, j'ai évoqué le coût énorme que représente la réparation d'une voiture accidentée. Et il faut le rappeler, l'œuvre pour obtenir une nouvelle création n'est pas pour Dieu sans prix. Cela lui a coûté ce qu'il avait de plus cher, la mort de son Fils, le Seigneur Jésus, sur la croix. Le texte biblique cité précédemment affirme « Si quelqu'un est uni au Christ, il est créé de nouveau. » Être uni au Christ, c'est avoir la foi en lui, ainsi qu'en la valeur de la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection. Être uni au Christ, c'est demeurer en lui, c'est regarder le monde comme lui le regarde, c'est agir comme lui agirait, c'est avoir à cœur de faire ce que lui ferait. Quand nous avons cette foi et cette confiance en Dieu, cela prouve que Dieu, par sa grâce, nous a créés de nouveau, car ces choses témoignent que nous marchons selon ses desseins. Tout comme une voiture accidentée ne peut pas redémarrer sans l'intervention d'un garagiste, Dieu doit agir dans nos vies afin de nous façonner et nous remodeler selon sa volonté.
La Bible contient beaucoup d'images qui cherchent à décrire ce que cela signifie de devenir chrétien. La nouvelle création est l'une de ces images. Elle évoque la puissance d'un Dieu capable de changer nos vies en bien.
La prochaine fois, Jean-Yves parlera d'une autre image qui nous aidera à comprendre ce que devenir chrétien signifie. Il utilisera l'image de la réconciliation. Nous espérons vous retrouver bientôt. Au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.